Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Plutôt que de la faire d'abord, on va d'abord comprendre un petit peu ce que c'est, puis ensuite on va l'appliquer. Je suis sûr que vous savez déjà tous un peu ce qu'est la louange. Vous avez tous déjà au moins loué Dieu une fois, ou plusieurs fois, ou des centaines de fois. Mais on a toujours besoin aussi de comprendre et d'aller un peu plus loin. Et la question que je me posais ce matin, que j'aimerais vous poser, mais quelle valeur est-ce que vous donnez à la louange? Ou quelle est la valeur de la louange? On est dans un pays où on parle beaucoup d'argent, de valeur, de richesse. Ces temps avec la crise, les choses sont pas mal secouées et ça nous fait réfléchir peut-être sur les valeurs qu'on donne aux choses. Et il me semble que c'est aussi important de se poser la question, mais quelle valeur est-ce que Dieu a dans nos vies? Et dans ce sens-là, quelle valeur est-ce qu'on donne à l'adoration? Et en voyageant un petit peu, en me déplaçant depuis de nombreuses années dans différentes églises, je réalise qu'on a différentes conceptions et puis que certaines personnes disent certaines choses sur la louange. Par exemple, on va chanter en attendant. En attendant que les derniers arrivent, pendant que les enfants sortent, pendant qu'on fait l'offrande, on chante en attendant. Mais est-ce que c'est ça vraiment la valeur de la louange? Et je crois que ça a beaucoup plus de valeur que de chanter et d'attendre. Alors une chose qui est importante à comprendre, c'est que justement la louange, c'est pas que chanter. C'est pas juste interpréter des chants, mais c'est un moyen qu'on a pour dire ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors la musique est fantastique, les chants sont merveilleux, c'est quelque chose que Dieu a donné et c'est bien d'utiliser. Mais il faut qu'on aille creuser beaucoup plus profond. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est que l'adoration, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la capacité de Dieu de la donner à qui on veut. Vous vous rendez compte, ce Dieu nous a donné la liberté d'avoir une volonté, un choix, et de donner à partir de ce choix, de cette volonté, le meilleur à qui on veut. Alors c'est déjà ce qui se passe dans un couple, j'espère en tout cas, c'est comme ça, c'est que vous avez choisi une personne et que vous l'aimez, que vous lui donnez. Vous venez pas pour prendre, mais vous venez pour donner. Et dans ce verset qu'elle a lu, Valérie, en introduction, c'est « offrir à Dieu ». Et je crois qu'une des choses importantes dans la louange, c'est de comprendre qu'on offre. Et là aussi, il y a peut-être une mauvaise conception. On vient au culte pour recevoir. Je vais voir qu'est-ce qu'on va recevoir ce matin. Je me demande qui c'est qui va prêcher. Je me demande qui c'est qui va faire la louange. Qu'est-ce que je peux prendre? Ah, ce chant, il m'a béni. J'aime beaucoup ses paroles. Ah, ce message m'a fait du bien. Et puis, on prend. C'est très bien parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous donne. Mais notre responsabilité, à mesure qu'on grandit dans la vie chrétienne, c'est aussi d'apprendre à donner. Dieu nous a montré l'exemple. Jésus est venu, il s'est donné. Et ensuite, notre responsabilité, c'est de donner. À partir de notre choix, de notre liberté, Dieu va jamais nous forcer, nous obliger à donner. Vous avez déjà remarqué cela? Dieu nous oblige jamais. Vous pouvez essayer de forcer quelqu'un à donner. Alors, si vous insistez bien, vous allez peut-être finir par obtenir quelque chose. Mais s'il n'y a pas le cœur, s'il n'y a pas le désir de donner, ça apporte rien, ce don. Et surtout dans le domaine de l'amour, de l'affection, du don de soi. Il faut que ça vienne de soi-même, justement. Je me souviens, je parle de Mathieu, qui est maintenant assez grand, hein, bientôt 20 ans. Mais quand j'étais jeune papa, avec mon premier fils, j'aimais bien communiquer avec lui et puis recevoir quelque chose, quoi. Et puis je me souviens, une fois, j'étais dans mon bureau, je travaillais. Et puis tout d'un coup, je dis, ah, j'aimerais bien voir Mathieu. Mathieu jouait dans la chambre à côté avec ses Lego, ses Playmo. J'appelle Mathieu, Mathieu, viens. Mathieu, il a pas envie de venir parce qu'il joue, hein. Mais comme j'ai tellement envie, moi, c'est moi qui ai un besoin. Viens, Mathieu. Il m'entend pas. J'insiste 3-4 fois, puis après je parle plus fort. Mathieu, viens maintenant. Alors comme j'ai une grosse voix, hein, puis qu'il est petit, il est impressionné, il vient, il arrive, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Dis-moi que tu m'aimes. Le papa frustré en manque d'amour, hein. Mathieu, ben je t'aime, papa. Et il s'en va. Loupé. Pourtant, il a dit la bonne formule. Il a dit la bonne chose, celle que je voulais. Mais en fait, ça marche pas. Je me souviens par contre, quand j'étais absent, je pars une journée ou plusieurs jours, Je rentrais dans l'appartement, on avait été en vieil appartement à Molondin, les portes grinçaient un peu, les escaliers aussi. Donc, j'ouvre la porte, Mathieu m'entendait, il posait ses Lego, sa vidéo, n'importe quoi, il courait, il me disait « Papa !» Il me serrait dans les bras. Pourtant, j'avais pas programmé, j'avais pas dit « Attends, Mathieu, quand j'arrive à 5 heures, tu te prévois ton truc, tu te déposes tes jouets, tu viens me dire. » Non, c'était pas programmé, c'était naturel. Mais cet exemple de la vie courante pour montrer qu'avec Dieu, des fois, on est comme ça. On fonctionne, on dit « Bon, Seigneur, faut quand même que je te dise que je t'aime. » Et puis, je vais dimanche matin, je vais aller au culte, puis je vais aller te le dire. Puis le reste du temps, on s'occupe pas de lui. Puis on le fait parce qu'il y a quelqu'un au micro qui nous dit « Ben, chantez, priez, levez-vous, levez les mains, asseyez-vous, couchez, debout, assis. » Ça, c'est au service militaire. Hein. Donc, c'est pas le but de la louange. Le but, c'est pas que vous plaisiez à celui qui a le micro, que vous fassiez exactement ce qu'il vous dit, mais faites ce qu'il y a dans votre cœur. Ce que votre passion, votre amour pour Dieu, donnez-le lui. Vous êtes content d'être avec Dieu, ben, dites-le lui. Chantez-le lui de tout votre cœur. Ou restez assis ou levez-vous, peu importe. C'est pas la forme extérieure, mais c'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est la valeur que vous donnez à Dieu par vos chants, par votre attitude, par vos gestes, par vos actes. Alors, je vous donnerai un exemple biblique. C'est Marie dans Jean 12. Vous connaissez tous sûrement ce texte. Et j'aimerais bien expliquer le contexte parce que ça change beaucoup de choses. Donc Marie met du parfum sur les pieds de Jésus. C'est l'histoire de le titre du chapitre. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où vivait Lazare, l'homme qui avait ramené de la mort à la vie. Là, on lui offrit un repas que Marthe servait, comme d'habitude. Hein. Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Alors juste le contexte. Il était chez Lazare, l'homme qu'il avait ressuscité. Donc, quelques semaines avant, ça se passe quelques semaines plus tôt, Lazare était malade et Lazare est mort. Et Jésus est allé dans cette maison et il a ressuscité Lazare. Mais avant qu'il ressuscite, qu'est-ce qui s'est passé? Marthe et Marie s'inquiétaient pas trop parce qu'ils disaient, Lazare est malade, mais on n'a pas de problème, Jésus est notre ami. Donc, on va appeler Jésus, on va lui lancer un fax et il va venir tout de suite. Hein? Donc, ils ont envoyé quelqu'un, Jésus vient, Lazare est malade. Puis Jésus, il arrive pas. Donc, jusqu'à ce que Jésus arrive, elle s'inquiète pas parce qu'elle dit, il va venir. Mais au moment où Lazare meurt, là, il y a un gros problème. Elle perd toute leur espérance, toute leur joie, parce qu'elle disait, Jésus va venir juste avant qu'il meure, pour le guérir. C'est pas grave, s'il est malade, Jésus va le guérir. Et finalement, Jésus arrive, entre guillemets, trop tard. Et quand Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? Là, je vous résume le chapitre qui se passe juste un peu avant, où ils leur disent, elles courent vers Jésus et disent, mais c'est trop tard, il est mort. Elles n'avaient pas du tout l'espérance, elles avaient l'espérance pour la guérison, mais pas l'espérance pour la résurrection. Donc, ils font même des reproches. Et Marie et Marthe font des reproches à Jésus. Et là, quelques semaines plus tard, Lazare est ressuscité. Donc, vous imaginez la situation dans la famille, la fête. Jésus s'arrêtait chaque fois chez eux parce qu'il connaissait bien cette famille. Et là, il s'arrête. Il vient manger, comme d'habitude, un bon repas. Et au milieu de ce repas, je pense que Marie, elle a dû réfléchir. Depuis pas juste 5 minutes, depuis quelques semaines, elle s'est dit, mais quand même, ce Jésus que j'attendais, qui est pas venu quand je voulais, à qui j'ai fait des reproches publics. Jésus, c'est quand même pas juste ce que t'as fait pour moi. Pourquoi t'as pas répondu à ma prière? Pourquoi t'es pas venu quand je t'ai demandé? Des fois, on est comme ça avec Dieu, hein. On est très exigeant. On lui dit ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire. Mais vous savez, Jésus, il est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Même si pour nous, des fois, c'est un peu tard. Il vient au bon moment et fait ce qu'il doit faire. Alors là, Marie, elle a réfléchi, elle a dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire la prochaine fois que je vois Jésus? Je pourrais lui écrire une petite lettre, puis lui dire merci. Il a ressuscité mon frère, c'est sympa. Hein? Ça suffit pas. Ah, je pourrais lui composer une chanson. Avec ma guitare, lui faire une petite chanson. Jésus, super, tu m'as... Non, mais une petite chanson, c'est quand même pas suffisant. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je peux donner à Jésus pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de mon frère? Qu'est-ce que je peux lui donner qui a le plus de valeur? Elle rentre dans sa chambre. Vous savez, à l'époque, les chambres n'avaient pas autant de choses que chez nous. Hein? Elle avait peut-être pas encore un compte en banque à l'UBS avec le carnet d'épargne. Elle avait pas grand-chose, pas une voiture dans le parking. Qu'est-ce qu'elle a dans sa chambre? Une table, un miroir, un lit et peut-être, sûrement, puisqu'on le voit ici, son parfum. Et ce parfum, c'était un parfum qu'elle avait peut-être reçu par héritage. C'était un parfum qui a une très grande valeur, qui valait le salaire d'un ouvrier pour une année. Donc 25 000, 30 000 francs. Juste cette chose-là qui avait de la valeur. Elle gardait ça pour son mariage. Comme dot, peut-être. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce parfum. Et quand Jésus Elle dit, voilà, c'est ça que je vais donner à Jésus. Mais comment je peux le donner pour que ça passe? Qu'est-ce que je peux en faire? Elle réfléchit. Quand Jésus vient, elle parle pas, elle discute pas, elle argumente pas. Jésus à table, elle vient avec son parfum. Elle répandit sur les pieds de Jésus, c'est le verset 3, puis elle lui essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. Donc, elle fait un acte d'adoration. C'est pas une chanson, c'est pas une prière, c'est pas une parole, elle fait plus. Elle donne quelque chose qui a de la valeur, qui a beaucoup de valeur. Je crois que ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Parfois, le chant ne suffit pas. Alors c'est bien, on est à l'église pour chanter, pour adorer, mais c'est le reflet de ce qu'on donne vraiment à Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu attend quelque chose qui a de la valeur. Et cette femme-là, elle a fait quelque chose qui avait une grande valeur. Elle a donné gratuitement. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un don comme ça? C'est presque tellement grand, tellement exagéré que les autres comprennent pas. Et qu'est-ce qui se passe? L'un des disciples de Jésus, Judas, celui qui allait le trahir, donc on connaît le cœur de Judas, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? Il y a toujours quelqu'un pour faire une remarque sur ce que vous faites ou ce que vous faites pas. Pourquoi il loue comme ça? Pourquoi il fait ça pour Jésus? Pourquoi il a tout donné? Parce que ça nous remet en question nous-mêmes. Parce qu'il a donné beaucoup, alors on se dit, mais moi, est-ce que je suis prêt à donner autant? Et là, plutôt que de se remettre en question, on critique. Et j'ai remarqué aussi que dans l'adoration, il y avait deux attitudes. Soit on adore, soit on critique. Si on adore, ben on est là, on est content d'être là. On ferme les yeux, on ouvre les yeux, on lève les mains, on est assis, on chante, peu importe, on adore. Et si on n'adore pas, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Tiens, c'est drôle, la chanteuse, elle a mis une jupe qui lui va pas très bien. Tiens, c'est drôle, la sono, elle est vraiment pas bien réglée. Tiens, c'est bizarre, j'avais jamais vu ce tableau là. Ah, mais c'est quoi? Ah, mais il y a une erreur sur les paroles, là, il y a une faute d'orthographe, il faudra que j'aille leur dire, ah non, ça va pas. Et puis pourquoi lui, il lève pas les mains? Voilà, si on n'adore pas, on critique, il y a toujours quelque chose à critiquer. Il y aura toujours quelque chose qui fonctionne pas, on n'est encore pas au ciel avec les anges glorifiés, sanctifiés, purifiés, hein. Donc vous pouvez passer votre temps à trouver les défauts qu'il y a. Ça va pas vous aider à adorer. Donc à un moment donné, on arrête, on dépose et on vient pour adorer. Et quand il se passe cette chose-là, que Judas critique, et c'est bien dit dans le texte, verset 6, il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Donc il fait une remarque, une critique, et puis encore même pas avec un cœur juste et un cœur pur. Et Jésus dit, laisse-la tranquille, laisse-la garder ce qu'elle a pour le jour où l'on me mettra au tombeau. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Ça veut dire que Jésus, il accepte ce sacrifice, il accepte cette offrande, il accepte cette adoration. Même si humainement, c'est pas logique, c'est pas sage, économiquement, on aurait pu faire autre chose de cet argent. Il y a du temps qu'on donne à Jésus dans l'adoration qui est pas rentable, qui rapporte pas forcément, financièrement. Mais spirituellement, ça rapporte beaucoup. Et ça montre où on met notre valeur. Donc je crois que c'est ça qui est important de considérer, c'est que l'adoration a une très grande valeur. Et une tellement grande valeur que même Satan veut l'adoration. Et je vous lirai encore un texte, c'est Luc 4, où Satan montre ce que lui, il a comme valeur par rapport à l'adoration. Jean 4, c'est la tentation de Jésus. Jésus, après être baptisé, rempli de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Il part en vacances au bord de la mer. Non. Il fut conduit dans le désert. Si tu avances avec Jésus, si tu te fais baptiser, si tu choisis de lui obéir, tu choisis de marcher sur l'onction de l'esprit, il y a souvent des difficultés, des tentations, des déserts dans nos vies. Mais c'est là justement qu'on a besoin de cette force de Dieu. Et là, après ce temps de jeûne, de prière, verset 5, le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Si donc tu veux m'adorer, je te donnerai tout. Donc Satan lui propose, je sais pas comment il a fait, mais il avait sûrement un DVD sur ondes Dolby stéréo sur écran géant. Regarde Jésus, les royaumes, les richesses, les trésors, toute la terre. Jésus aurait pu discuter, dire, oh, mais dis donc, c'est mon père qui a créé la terre. C'est mon père qui a toutes ces richesses. Non, il sait que Satan avait volé Elisa. Donc il discute pas au point de vue de l'autorité, au point de vue de la position. Il reconnaît que Satan a une force, une valeur. Mais la dernière valeur qu'il veut Satan et qu'il n'a pas, c'est l'adoration de Jésus. Il dit, si Jésus se met à genoux devant moi, là j'aurai tout. Et tellement, il a tellement envie de cela qu'il est prêt à tout lâcher. Donc dans la balance, il met beaucoup. Il met tous ses millions, tous ses milliards, tous ses dollars, toute sa richesse, toute sa valeur pour une seule chose. L'adoration de Jésus. Vous imaginez la valeur? Donc si on veut faire vraiment un chiffre, mettre un chiffre à l'adoration, c'est plus que tous les chiffres. Puisque Satan est prêt à laisser tout ce qu'il a. Puis il peut même discuter, il dit, Jésus, une toute petite adoration. 3 secondes, à genoux. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui nous voit. On est juste entre nous. Hein? Et mais pourtant, la clé, c'est que Jésus, il se soumet pas. Parce que quand tu adores, tu te soumets. Donc il ne veut pas se soumettre à Satan, il veut se soumettre à Dieu. Et peut-être c'est là aussi la clé pour nous. Quand on adore, on se soumet à Jésus. On se soumet à Dieu. Puis des fois, ça vient chercher des choses dans nos cœurs, dans nos vies. Mais je crois que Dieu, il mérite cela. Même si des fois, on ne sait pas trop ce que ça va nous coûter, la valeur, tout ça. Seigneur, je veux t'adorer parce que tu mérites que je te donne le meilleur. Et au moment où Dieu te le demandera, ben, rappelle-toi de cette prière, rappelle-toi de ce chant, rappelle-toi de ce que tu as dit, que tu veux l'adorer. Jésus nous demande de l'adorer de tout notre corps, toute notre force, toute notre âme, toutes nos pensées. Je pourrais parler encore une heure là-dessus, mais je vais m'arrêter là, parce que ce qui est important, c'est qu'on le vive maintenant. On va pas en parler plus, mais on va l'appliquer. Donc, je vous inviterai à le faire. Simplement, nous, on va prendre des chants, on va prier, on va laisser de l'espace. Le temps, maintenant, nous est donné pour ça. Donc, saisissez cette liberté pour adorer et lui donner vos prières, vos louanges, votre adoration. Et lui dire vraiment, dans le fond de vos cœurs. Vous pouvez dire aussi que des fois, c'est difficile. Vous avez de la peine à lâcher, mais dites-lui, soyez vrai. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. C'est ça. Jouez pas un jeu religieux. On n'est pas là pour faire une photo quand tout le monde va lever les mains en même temps. Attention! L'église des Chalons lève tous les mains en même temps. Les anges prennent une photo pour se souvenir de ce moment inoubliable. Non. Dieu, c'est pas ça qu'il attend. Mais ce qu'il y a dans vos cœurs, il prend la photo de vos cœurs. Et il n'y a que lui qui a ce scanner-là. Et c'est ça qui compte. Amen. On prie et on va adorer, appliquer. Seigneur, merci parce que toi, tu as tout donné. Tu étais jusqu'au bout, tu as donné même ta vie, tes ambitions, tes visions, tes désirs, pour pouvoir nous donner à nous la vie, pour nous permettre de te suivre. Je te prie que ce matin, tu mettes dans nos cœurs aussi une compréhension de cette valeur qu'on peut te donner aussi. Et je prie aussi contre toute pensée de dire, je suis pas capable, j'ai rien à donner, je suis pas bon, je suis pas assez fort, je chante pas assez bien. Tout cela, au nom de Jésus, je le balaye. Jésus nous a tous donné une voix, un corps, une bouche, des mains, un cœur, et tout cela on peut te le redonner. Et je te prie que tu sois béni par nos louanges. Amen. Je sais pas si vous voyez ce petit billet. Une fois, je partais à un séminaire et avant juste de partir à mon bureau, Naomi m'avait fait ça. Je t'aime papa, avec un gros cœur, avec un petit âme. C'était sa manière de me dire, voilà, je sais que tu pars, je vais m'ennuyer de toi, mais en même temps, je te donne mon amour. Ben ce matin, on va faire nos petits dessins pour Dieu. Puis Dieu, il va les garder. Moi, je les garde dans ma Bible et puis j'y repense. Parce que je sais que c'est son amour, son affection, sa relation avec moi qui est bonne, qui me touche. Même s'il n'est pas là tout le temps, même si Dieu, on le sent pas tout le temps, on le voit pas tout le temps, il y a cette lettre d'amour qui nous donne, qui nous a donné, que nous, on peut lui redonner.